dans l'Ancien Testament, livre des Juges, premier chapitre, depuis le début. Et il arriva après la mort de Josué que les fils d'Israël interrogèrent l'Éternel, disant : Qui de nous montera le premier contre le Cananéen pour lui faire la guerre ? Et l'Éternel dit : Juda montera. Voici, j'ai livré le pays en sa main. Et Juda dit à Siméon, son frère : Monte avec moi dans mon lot et faisons la guerre contre le Cananéen. Et moi aussi j'irai avec toi dans ton lot. Et Siméon alla avec lui. Et Juda monta, et l'Éternel livra le Cananéen et le Phérézien en leurs mains, et ils les frappèrent à Bézek, 10 000 hommes. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek, et lui firent la guerre, et frappèrent le Cananéen et le Phérézien. Et Adoni-Bézek s'enfuit, et ils le poursuivirent et le saisirent, et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Et Adoni-Bézek dit : 70 rois ayant les pouces de leurs mains et de leurs pieds coupés, ramassés sous ma table. Comme j'ai fait, ainsi Dieu m'a rendu, et on l'amena à Jérusalem, et il y mourut. Et les fils de Juda avaient fait la guerre contre Jérusalem, et l'avaient prise, et ils l'avaient frappée par le tranchant de l'épée, et avaient livré la ville au feu. Et ensuite, les fils de Juda descendirent pour faire la guerre aux Cananéens qui habitaient dans la montagne et le Midi et le pays plat. Et Juda s'en alla contre le Cananéen qui habitait à Hébron. Or, le nom de Hébron était auparavant Kiriath Arba, et ils frappèrent Shéchaï et Akiman et Talmaï. Et de là, il s'en alla contre les habitants de Débir. Or, le nom de Débir était auparavant Kiriath Sépher. Et Caleb dit : À qui frappera Kiriath Sépher et la prendra, je lui donnerai ma fille Aksa pour femme. Et Othniel, fils de Kenaz, frère puiné de Caleb, la prit. Et Caleb lui donna sa fille Aksa pour femme. Et il arriva que, comme elle entrait, elle l'incita à demander à son père un champ. Et elle descendit de dessus l'âne. Et Caleb lui dit : Qu'as-tu ? Et elle lui dit : Donne-moi une bénédiction, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources du haut et les sources du bas. Et les fils du Kénien, beau-père de Moïse, étaient montés de la ville des palémiers avec les fils de Juda au désert de Juda, qui était au Midi d'Arad. Et ils allèrent et habitèrent avec le peuple. Et Juda s'en alla avec Siméon, son frère, et ils frappèrent le Cananéen qui habitait à Tsepha, et détruisirent entièrement la ville. Et on appela la ville du nom de Horma. Et Juda prit Gaza et ses confins, et Ascalon et ses confins, et Écron et ses confins. Et l'Éternel fut avec Juda, et il prit possession de la montagne, car il ne déposséda pas les habitants de la vallée, parce qu'ils avaient des chars de fer. Et on donna Hébron à Caleb, comme Moïse l'avait dit, et il en déposséda les trois fils d'Anak. Et les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas le Jébusien, habitant de Jérusalem. Et le Jébusien a habité avec les fils de Benjamin à Jérusalem jusqu'à ce jour. Et la maison de Joseph, eux aussi, montèrent à Bethel, et l'Éternel fut avec eux. Et la maison de Joseph fit reconnaître Bethel. Le nom de la ville était auparavant Luz. Et les gardes virent un homme qui sortait de la ville et lui dirent : Montre-nous, nous t'en prions, par où l'on entre dans la ville, et nous userons de bonté envers toi. Et il leur montra par où on entrait dans la ville. Et ils frappèrent la ville par le tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller l'homme et toute sa famille. Et l'homme s'en alla dans le pays des Hétiens et bâtit une ville et l'appela du nom de Luz. C'est là son nom jusqu'à ce jour. Ce livre commence après la conquête du pays par Josué et ses troupes. Et puis nous avons lu, il arriva après la mort de Josué. Voilà, Josué nous montre un type du Seigneur Jésus qui a mené le combat pour nous acquérir un héritage, si on transfère ça en application spirituelle aujourd'hui pour nous chrétiens. Et Josué avait mené le peuple de Dieu pour l'établir dans ce pays promis de Dieu qu'il leur était dû en héritage. Il arriva après la mort de Josué que les fils d'Israël interrogent l'Éternel. Maintenant, ils n'ont plus Josué parmi eux pour les diriger. Maintenant, ils doivent avoir affaire directement avec l'Éternel. Et ça, c'est une chose très importante. Si nous faisons une application aujourd'hui, nous avons maintenant une relation directe avec Dieu. Et chacun est responsable d'interroger l'Éternel pour savoir ce qu'il doit faire. Et dans ce passage que nous avons lu, nous allons voir qu'il y a une certaine obéissance à Dieu qui apporte de la bénédiction et des victoires, mais en même temps, ces victoires, elles sont souvent mitigées. Parce que l'obéissance, elle n'est pas complète. Mais par grâce, Dieu donne quand même des victoires. Voyons dans ce premier cas ici, on demande à l'Éternel qui montera le premier contre le Cananéen pour lui faire la guerre. L'Éternel répond clairement, Juda. Voilà, la parole de Dieu, elle est claire. C'est Juda qui va monter à la guerre. Et puis on voit tout de suite, Juda alors vient auprès de son frère Siméon. Il lui dit, tu ne viendrais pas avec moi ? Alors, d'un côté, Juda est obéissant, dans le sens que Dieu l'a dit, il va monter à la guerre, il ne refuse pas de partir en combat. Et dans un autre sens, bien, nous sommes souvent comme ça, nous sommes d'accord d'obéir à Dieu, mais on a quand même besoin d'un certain support humain, souvent. On aime bien avoir le support humain de nos frères pour faire quelque chose. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit ici. La victoire est donnée. Dieu leur donna la victoire. Nous avons affaire à un Dieu de grâce, un Dieu qui donne des victoires, même si nous ne sommes pas totalement obéissants, heureusement pour nous, parce que qui pourrait donner un exemple dans sa vie où il a été totalement obéissant à Dieu ? Et pourtant, Dieu, par grâce, nous fait avancer dans le chemin et dans la possession des biens, je vais dire, spirituels pour nous aujourd'hui, de ce qu'il veut que nous obtenions. Et donc voilà, Dieu donne quand même, il est dit au verset 4, et l'Éternel livra le Cananéen et le Phérésien en leurs mains. Ils les frappèrent à Bézek. Et puis, on voit là qu'ils capturent le roi ennemi qui s'appelle Adoni-Bézek. Il fallait le mettre à mort. C'était ce que Dieu avait demandé, avait dit à son peuple, parce que c'était un jugement de la part de Dieu, et ces païens, sur lesquels Dieu avait prononcé un jugement, personnifiaient le péché. Et pour nous aujourd'hui, quand Dieu nous dit de nous débarrasser de ce qui est une entrave à la vie chrétienne, une entrave au développement spirituel, quelque chose qui fait préjudice à la justice de Dieu, il faut obéir. Ils ont appliqué une mesure moindre que ce que Dieu attendait d'eux. Au lieu de mettre à mort ce roi, ils lui ont coupé les pouces. Pourquoi est-ce qu'ils lui ont coupé les pouces ? On le comprend en lisant ce que ce roi Adoni-Bézek dit de lui-même. Il dit, voilà, j'ai fait ça aux autres, et voilà que ça se retourne contre moi. Et là, nous avons aussi un principe qu'on retrouve souvent dans les Écritures, c'est le principe de la rétribution. C'est-à-dire que souvent, les hommes vont nous faire ce que nous leur faisons. Et c'est comme ça que ce roi le comprend. Donc, le peuple d'Israël n'a pas mis à mort ce roi. Ils lui ont infligé une punition, on va dire, une sentence, à la façon des hommes, pour lui faire comprendre ce qu'il faisait aux autres. Pour finir, la pensée de Dieu va s'accomplir. Ils l'ont amené à Jérusalem et il y mourut. Donc même si nous ne faisons pas ce que Dieu nous a demandé au départ, eh bien, en fin de compte, la pensée de Dieu va s'accomplir même si nous ne le faisons pas nous-mêmes. Ensuite, on voit dans paragraphe 8 à 15 un bel exemple. Un exemple là de cet homme, Othniel, de ce combattant. Il y a une ville, elle s'appelle Kiriat Sefer. Et Caleb dit au verset 12, « À qui frappera Kiriat Sefer et la prendra, je lui donnerai ma fille Aksa pour femme. » pourrait en extraire quelques pensées utiles. Il y a ce désir, on va dire, de ce père, que sa fille soit mariée à un homme qui a de l'énergie spirituelle. Un homme qui est prêt à s'engager dans le combat, on va dire, de Dieu, du Seigneur, et qui ne recule pas dans le chemin, malgré la difficulté. Eh bien, c'est ça que ce père désire pour sa fille Aksa. Alors il fait ce vœu. Il y a un homme qui s'avance, Othniel, fils de Kenaz, frère puis né de Caleb, l'a pris. Donc il est allé de l'avant pour entrer en guerre contre cette ville et il a remporté la victoire. Nous n'avons pas de détails, il est simplement dit qu'il l'a pris. Alors Caleb lui donne sa fille Aksa pour femme. On voit là, on va dire, un couple, Aksa et Othniel. Othniel et Aksa, voilà un couple, on va dire, qui ont eu le privilège de grandir dans des familles où on avait l'intérêt de défendre les choses de Dieu et qui ont aussi reçu cette énergie spirituelle de la part de Dieu. Et alors, nous voyons Aksa, comme elle entrait, elle incite à demander à son père un champ. Cette femme, elle se rend compte de la nécessité d'avoir un champ. Un champ, ça nous parle de la nourriture qui va pousser dans ce champ, de ce qui est nécessaire à une famille, à un couple, pour être fondé, dans le Seigneur, en ce qui nous concerne. Il faut avoir un champ. Avoir ce désir de posséder un champ, ça montre aussi qu'on ne recule pas devant le travail, parce qu'un champ nécessite beaucoup de travail. Il faut labourer, il faut semer, il faut arroser, il faut récolter. Et voilà le programme que Aksa a en vue. Maintenant qu'elle a un mari, eh bien, il faut travailler ensemble. Il faut travailler pour avoir cette nourriture qui va pousser de la terre, qui est donnée de Dieu. Mais elle se rend compte aussi qu'il y a quelque chose qui manque. Elle va vers Caleb, elle lui dit « Donne-moi une bénédiction, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » Vous voyez, elle se rend compte de l'importance de l'eau. Parce qu'à quoi ça sert de travailler dans un champ si on n'a rien pour l'arroser? Évidemment, cette eau, pour nous, elle nous parle de l'eau divine. Le Seigneur Jésus lui-même est l'eau vive. Donne-moi de l'eau, donne-moi cet accès aux bénédictions de Dieu. Et pour nous, allons dire, nous devons rechercher l'accès aux bénédictions de Dieu à travers Jésus-Christ, le seul par qui toutes choses pourront porter du fruit. Elle comprend ce qui est nécessaire et elle émet simplement le besoin d'avoir une source d'eau, des sources d'eau. Et on voit Caleb ne lésine pas. Caleb donne libéralement des sources du haut et des sources du bas. Il donne tout ce qui est nécessaire. Ces bénédictions qui sont tellement nécessaires. Peut-être pour nous, on pourrait dire les sources du haut, les sources du bas. Les bénédictions qui sont liées en Christ dans le ciel. Ces bénédictions dont il nous est parlé dans Éphésiens, par exemple, ayant été bénis de toute bénédiction céleste en Christ. Mais il y a aussi beaucoup de bénédictions liées à la terre, dans notre vie de tous les jours. Que peut-être, on dirait, ce sont des petites choses. Ce ne sont pas petites si c'est par le Seigneur et au travers du Seigneur que nous les recevons et que nous en bénéficions, y compris notre nourriture quotidienne. On lit au début des Actes que les premiers chrétiens prenaient leur nourriture avec simplicité, avec joie, rendant grâce à Dieu. Ce sont des bénédictions. Alors il y a ces sources du haut, ces sources du bas. Et nous sommes abreuvés aujourd'hui spirituellement en Christ, on va dire, dans toutes les directions. On passe un peu plus loin dans le chapitre. On voit au verset 17... Judas donc s'en alla avec Siméon. On avait vu au début du chapitre qu'ils s'étaient alliés entre eux, s'étaient mis d'accord pour faire la guerre. Donc il alla avec Siméon, son frère, Ils frappèrent le Cananéen. Et donc, ils ont obtenu une victoire aussi, là. Ils détruisirent entièrement la ville. Et alors, ils changent le nom de la ville. Entière destruction. C'est une belle victoire. Ce n'était pas exactement comme Dieu l'avait peut-être demandé, ou l'avait dit, Judas ira, puis Judas est allé avec Siméon. Mais quand même, Dieu donne une véritable victoire à Judas et Siméon. Et on lit quelques versets plus tard, verset 19, « L'Éternel fut avec Judas, et il prit possession de la montagne. Par contre, nous voyons, il ne dépossada pas les habitants de la vallée. » Ça, c'est une victoire mitigée, comme il y en a peut-être si souvent dans notre propre vie, où on arrive à obtenir quelque chose de bon, mais nous ne continuons pas l'effort jusqu'au bout. Faisons une application, on aurait peut-être beaucoup d'autres à faire, mais il prit possession de la montagne. Voilà, nous arrivons à maintenir ou à prendre possession de bénédictions spirituelles qui sont liées au rassemblement, au moment où nous nous retrouvons ensemble, ou même individuellement, au moment où nous nous retrouvons seuls dans la communion avec le Seigneur, chaque jour, on va dire dans des lieux élevés spirituellement. Mais alors qu'en est-il dans la vallée, au travail, à l'école, lorsqu'il y a toutes ces influences et tout ce monde qui nous entoure et qui nous sollicite? Il ne les dépossada pas les habitants de la vallée parce qu'ils avaient des chars de fer. Ils avaient des chars de fer. C'était impressionnant, peut-être. Peut-être qu'on n'entre pas vraiment en lutte spirituelle pour le compte du Seigneur, pour le compte de Dieu, parce qu'on trouve que l'ennemi est fort. Pourtant, on a beaucoup d'exemples dans la parole qui nous montrent que les chars de fer, devant la puissance de Dieu, pas grand-chose. Il y avait Pharaon et toute son armée qui avait poursuivi le peuple. Le peuple était passé à travers la mer et l'armée du Pharaon et le Pharaon ont été anéantis par ces flots qui sont tombés sur eux. Il faut bien se dire que nous devons avancer et combattre par la foi et non pas par la vue. Verset 20, très positif aussi, on donna Hébron à Caleb comme Moïse l'avait dit et il en déposséda les trois fils d'Anak. Ça, c'est une belle victoire, résumée en un seul petit verset. Les fils d'Anak, les trois géants, les Anakim, les géants qui faisaient peur aux hommes, qui probablement étaient ceux qui avaient fait peur aux espions qui étaient allés scruter le pays, sauf Josué et Caleb, qui n'avaient pas eu peur. Eh bien, voilà Caleb qui reçoit Hébron. Et puis au verset 21, « Et les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas le Jébusien, habitant de Jérusalem. » On a vu déjà plus tôt dans le chapitre que Judas était monté en guerre au verset 8 contre Jérusalem. Judas avait réussi sa partie du travail, de sa lutte. Eux, ils avaient réussi, ils avaient gagné leur bataille, mais Benjamin, qui devait prendre le sud de la ville, n'avait pas réussi. Voilà encore une victoire, mais une victoire mitigée. Une partie de la ville a été prise, pas l'autre. Et le Jébusien a habité avec les fils de Benjamin à Jérusalem jusqu'à ce jour. Si on lit plus loin dans la parole, on va comprendre que ce sera quand David attaquera les Jébusiens qu'il prendra possession complète de la ville. Donc ça veut dire que pendant de longues années, eh bien, le Jébusien continuait à habiter avec les fils de Benjamin dans cette ville de Jérusalem. Victoire, mais pas totale. Elle viendra, la victoire, dans le chef de David. Ça nous parle évidemment du Seigneur Jésus. Toutes les victoires que nous n'aurons pas remportées pour son compte, eh bien, le Seigneur, quand il viendra, lui, il les remportera toutes. Et il établira tout ce qui revient à Dieu dans sa justice et dans sa gloire. Quelques versets encore, à partir du verset 22. Et là, on voit que la maison de Joseph aussi montèrent à Bethel, et l'Éternel fut avec eux. C'est quand même magnifique de voir que l'Éternel est avec ceux qui s'avancent. L'Éternel est avec ceux qui s'avancent pour défendre les intérêts de Dieu. Et l'Éternel fut avec eux. Et la maison de Joseph fit reconnaître Bethel. Le nom de la ville était auparavant Luz. Et les gardes virent un homme qui sortait de la ville et lui dirent « Montre-nous, nous t'en prions, par où l'on entre dans la ville, et nous userons de bonté envers toi. » Voilà, ils trouvent un homme qui peut les renseigner, les informer sur une stratégie pour remporter cette victoire. Cet homme est différent de Rahab. Vous vous souvenez de Rahab à Jéricho? Elle avait aidé le peuple de Dieu, mais elle avait son cœur pour l'Éternel dans un sens. Elle avait entendu parler de l'Éternel. Elle avait ce désir dans le cœur de se ranger du côté de Dieu. Nous ne voyons pas cela ici. C'est un cas différent. Ici, cet homme, il donne l'information. Ils lui ont promis de ne pas le tuer, en quelque sorte, s'il les aide. Rahab a été épargnée pour différentes raisons. Elle avait mis ce morceau de tissu rouge à sa fenêtre. Elle s'était mise à l'abri. Elle pouvait voir à qui elle appartenait. Ici, c'est différent parce que Rahab, elle a été ensuite incorporée, alors qu'ici, non. Donc, ils ont utilisé cette information que cet homme leur a donnée. Ils frappèrent la ville par le tranchant de l'épée, mais il n'est pas dit. Il n'est pas dit « et » ils laissèrent partir l'homme, verset 25 au milieu, « mais ils laissèrent aller l'homme et toute sa famille. Et l'homme s'en alla dans le pays des Hétiens et bâtit une ville et l'appela du nom de Luz. C'est là son nom jusqu'à aujourd'hui. » Et nous voyons là aussi une victoire, je dirais, mitigée. La ville a été prise, c'est une victoire. Mais d'un autre côté, il y a un homme de cette ville qui a échappé et qui a reconstruit ce qu'il avait connu. Et il reconstruit une ville et il l'appelle du nom de la ville qui a été détruite. Et peut-être que, pour en faire une application spirituelle, parfois Dieu nous demande d'agir pour que cette chose disparaissent, pour que cette pratique, pour que cette façon de penser n'ait plus lieu. Mais on va laisser échapper un petit peu, un seul cas. Et dans l'ensemble, eh bien, la ville a été prise, dans l'ensemble, le problème a disparu, mais voilà qu'une autre ville, à la même ressemblance, va se développer. Elle va se développer. Et on appela cette ville du nom de Luz. Voilà, ça c'est le début du livre des juges, où il y a des victoires. On a vu quelques beaux exemples de vraies belles victoires. Et il y a des victoires mitigées. Et au cours du livre des juges, ça va se dégrader. Ils vont tomber en esclavage, sous l'oppression des ennemis. Ils vont perdre le bénéfice de l'héritage que Dieu voulait leur donner, souvent. Il faudra que Dieu envoie des personnes pour les délivrer, des juges. Mais nous voyons quand même que la grâce de Dieu est là, et la parole de Dieu est là pour nous enseigner et pour nous encourager. Et si Dieu nous demande d'agir, eh bien, ayons cette foi qui doit nous caractériser pour appliquer la parole de Dieu à fond, complètement, afin que la victoire soit complète et qu'il n'y ait pas des ennemis qui restent à l'intérieur, comme ces Philistins que nous avons vus, ou comme cet homme qui échappe et qui recrée le problème à partir de zéro.